Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mounde.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue. Nous sommes mardi 12 août 2014. Bonsoir et bienvenue à cette émission. Ce grand dialogue est spécial car nous recevons un invité unique en la personne de David Gressley, chef adjoint de la MINUSMA. Bonsoir, monsieur Gressley.
Bonsoir.
Avec moi également dans ce studio, Moussoukoura Konaté. Bonsoir, Moussoukoura. David Gressley, vous portez plusieurs casquettes, mais pour ce débat, nous retenons votre qualité de coordonnateur des actions humanitaires du système des Nations Unies au Mali. Nous allons tenter de comprendre avec vous le travail des agences humanitaires de votre système dans le pays avec trois axes. Sécurité alimentaire, les actions en faveur de l'enfance, la mobilisation de fonds en faveur des programmes humanitaires au Mali. Mon nom est Famoussa Sidibé, Peting Diarra est à la technique.
Studio Tamani.
Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde, mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. C'est sous cet angle que Victor Hugo voyait l'efficacité des actions communes pour vaincre la pauvreté dans le monde. Pour mener ce combat au Mali, monsieur Gressley, vous portez plusieurs casquettes. Comment faut-il vous présenter au public malien ?
Merci bien tout d'abord. En fait, comme vous l'avez dit, je suis le coordinateur humanitaire qui comprend pas seulement le système des Nations Unies, mais aussi les ONG humanitaires qui s'occupent dans l'action humanitaire. Mais aussi, je suis responsable pour le développement en tant que coordinateur résident du système des Nations Unies. Et les deux sont très liés, en fait. On ne veut pas continuer l'humanitaire, on veut vraiment un développement qui va éviter une action humanitaire dans l'avenir.
Alors, revenons sur votre fonction de représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce programme?
Ce programme est plutôt lié à augmenter la capacité des institutions nationales. On travaille au niveau central, mais aussi sur le terrain, même dans le nord du pays, on a déjà commencé ce programme. On travaille dans le domaine de la gouvernance aussi. On sait que l'un des problèmes ici au Mali, c'est un manque de bonne gouvernance. Donc on a quelques techniciens qui travaillent étroitement avec le gouvernement au niveau central, mais aussi dans les régions pour aider dans cet aspect.
Alors, le principe de cette émission est de vous permettre, vous, auditeurs du studio Tamani, dans le Mali profond, de vous faire une idée et d'entendre sur les sujets, de vous faire entendre sur les sujets du quotidien. Ces sujets portent aujourd'hui sur le travail des agences humanitaires du système des Nations Unies avec trois sous-thèmes, sécurité alimentaire, les actions en faveur de l'enfance et la mobilisation de fonds en faveur des programmes humanitaires au Mali. Après ce préambule, entrons plus en détail, si vous voulez bien, et nous partons dans une région que vous connaissez particulièrement bien, M. Gressley. Le voyage, c'est avec Moussoukoura Konaté.
Merci, Famoussa. Bonsoir, M. Gressley.
Bonsoir.
Monsieur le représentant résident du PNUD au Mali, la première question de ce débat vient de Gao, une des régions au cœur du conflit armé qui justifie la présence de l'AMINUSMA et où l'aide humanitaire est très sollicitée. Monsieur Gressley, le directeur de la radio Nata de Gao vous questionne sur la capacité de vos équipes à atteindre toutes les populations. Je vous invite à écouter la question de Monsieur Touré.
Bonsoir, je suis Ousmane Ablé Touré, directeur de la radio Nata FM de Gao. J'aimerais poser une question au chef adjoint de l'AMINUSMA, Monsieur David Gressley. L'aide humanitaire doit être acheminée dans les zones d'insécurité au nord. Vos équipes parviennent-elles à toutes les populations?
Allez-y.
Ah, merci bien pour cette question et je crois que c'est très pertinent et c'est aussi très correct. J'étais à Gao trois fois dans les 10 jours passés, donc je suis souvent dans la région de Gao. En fait, on a quelques défis pour atteindre toutes les populations dans les régions du nord. Je peux parler plus spécifiquement dans la région, à propos de la région de Gao. En fait... On a des équipes un peu partout, comme à Menaka, à Gao même, et dans d'autres localités dans la région. Et on continue à travailler. Mais les défis qui sont là sont réels. Ils sont surtout liés à une certaine insécurité dans les axes routiers où il y a toujours un problème de banditisme, criminalité, qui empêche parfois les livraisons de notre assistance. Aussi, on a dans certains endroits un problème, comme on a vu en fait dans la région de Tombouctou, avec les engins explosifs.
Les mines antipersonnel.
Exactement. En fait, il y avait deux humanitaires qui ont été tués il y a un mois à peu près, liés à un incident tel que ça. Donc, on a ces problèmes sécuritaires qui parfois empêchent. Mais à la fin, on peut continuer à donner une distribution d'assistance alimentaire, surtout. Même dans la région de Kidal, on a déjà un programme qui touche plus de 30 000 personnes. Donc ce travail continue malgré tous les problèmes sécuritaires et parfois des problèmes politiques qui existent dans ces régions. Une fois qu'on trouve un problème, soit politique, sécuritaire, on essaie de voir comment on peut surmonter ça. Et je dois dire que nous avons plusieurs organisations, surtout les côté des ONG, qui prennent des risques pour assurer une livraison de cette assistance. Ce n'est pas encore un système qui est parfait. Il y a toujours des populations qui ont toujours un besoin. Aussi, on a un problème parfois de financement qui ne vient pas à temps, mais on fait le maximum avec ce qu'on a maintenant. Et plus ou moins, je crois qu'on peut aider la population de passer cette période d'insécurité alimentaire.
Alors, au-delà de l'aide humanitaire qui peine à arriver aux populations, il y a un réel problème de malnutrition dans la région de Gao, dans le cercle de Bourem, je pense, et dans le reste du pays. Quelles sont les réponses immédiates et appropriées dont vous disposez?
En fait, c'est un problème qui touche le nord et le sud en même temps. Ça, c'est très important à souligner. Et peut-être un point avant de répondre à votre question. C'est très important de comprendre qu'il s'agit d'un problème qui est plutôt structurel dans le cas de Mali. Il y a aussi une augmentation des besoins dans le nord liés au conflit, mais il y a à la base un problème structurel. Actuellement, dans le pays, on pense, dans cette année 2014, presque 500 000 enfants seront touchés par la malnutrition, soit modérée ou aiguë. Donc, c'est très important d'atteindre tous ces enfants pour un traitement ou pour une prévention de la malnutrition. Déjà, on a touché presque 200 000 enfants. Donc, un bon progrès qui est un peu limité par le financement, mais je crois que nous sommes sur le bon chemin. Ça, c'est les chiffres pour la fin de juillet. Donc, on a encore 5 mois pour atteindre les objectifs de cette année. Mais il faut aussi attaquer les problèmes structurels. Si on veut sortir de ce problème qui est là depuis plusieurs années.
Récurrent. OK. Alors, de Gao, nous partons à l'autre bout du pays, dans la cité des rails, où le climat est particulièrement sec, tout comme au nord, Moussoukra Konaté.
En effet, Famoussa, nous sommes à Kaye, la première région administrative du Mali. Le directeur de la radio Nostalgie de Kaye veut savoir comment réduire la dépendance des populations à l'aide humanitaire. Monsieur le représentant résident du PNUD au Mali, je vous propose d'écouter sa question.
Cheikh Diallo, directeur de la radio Nostalgie Kaye. David Gressley, représentant résident du PNUD au Mali. Bonsoir. Comment faire aujourd'hui pour que les populations soient moins dépendantes de l'aide humanitaire au Mali?
C'est une question très importante. En fait, moi-même, je ne veux pas rester un coordinateur humanitaire. J'ai trop de casquettes déjà, donc si je peux donner ça à quelqu'un d'autre, ce serait bien. Mais l'essentiel, et comme je disais avant, c'est un problème structurel et on doit attaquer ce problème. Dans le sud du pays, ça c'est bien possible parce qu'on peut continuer avec les programmes de développement. Donc il y a un aspect de prévention et on est en train avec l'UNICEF et le PAM et d'autres ONG de travailler avec le gouvernement pour établir les structures qui peuvent aider dans la prévention d'abord et le traitement si c'est nécessaire pour que ça soit adapté par le gouvernement pour avoir une bonne réponse. Donc c'est dans ce sens qu'on doit travailler pour éviter ce problème de malnutrition dans le pays. On a déjà traversé une certaine distance qui est bien, mais il y a toujours une distance à traverser. Ça va prendre encore, je crois, quelques années pour vraiment atteindre tous les enfants qui sont en besoin et même plus de prévenir cette même maladie. Pour le Nord, c'est compliqué par la situation sécuritaire et les conflits qu'on a eus. Donc, et je vais parler de ça peut-être même en plus plus tard, c'est les pourparlers à Alger qui sont très importants pour avoir une paix définitive, durable, dans le Nord. Et ça aussi va permettre ce même attaque sur le problème de malnutrition.
Alors, les programmes d'aide actuels mettent plus l'accent sur l'aide d'urgence, moins sur le développement. Y a-t-il des risques aujourd'hui? Et y a-t-il des possibilités, des programmes en vue?
En fait, on essaie de faire les deux à la fois. Et c'est très important. On ne veut pas prioriser le développement et de ne pas traiter des enfants qui sont en besoin. Donc, il faut avoir un programme sur le côté humanitaire qui aide pas seulement les enfants, mais aussi d'aider les structures institutionnelles de prendre cette responsabilité. Donc, à travers le Sahel, et pas seulement ici au Mali, c'est notre objectif. À la fois, traiter les enfants qui ont besoin et à la fois aider le gouvernement de créer les structures nécessaires pour prévenir et traiter la malnutrition.
Okay. Alors, vous parliez tout à l'heure des pourparlers d'Alger. Est-ce que vous êtes confiant pour l'issue de ces pourparlers?
Je suis optimiste. Vous espérez? Oui, je suis optimiste.
Monsieur Koura Konaté, avez-vous une autre question?
Pas pour le moment.
D'accord. Alors, restons toujours sur cet aspect de la malnutrition. Aujourd'hui, est-ce que les populations ont suffisamment accès à vos services?
En fait, non, pas encore.
Comme j'ai dit, sud.
Je parle de deux côtés,
côtés, l'ensemble.
Dans le pays entier, il y a, comme je disais, 500 000 enfants qui sont en besoin. Nous avons, avec le gouvernement, ciblé 80%. Je suis confiant que nous sommes en train d'atteindre les 80%. Mais ça va laisser une marge. Et j'espère l'année prochaine, on peut atteindre même plus que 80%. Donc, chaque année, on peut bâtir un système qui est plus robuste, qui peut, à la fin, atteindre tous les besoins des enfants.
Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Vous êtes à la deuxième partie du Grand Dialogue, une édition spéciale avec un seul invité aujourd'hui, David Gressley, coordinateur résident du système des Nations Unies. Après Albert Condors, nous avons aujourd'hui le privilège d'accueillir M. Gressley pour échanger par l'intermédiaire du Studio Tamani, encore une fois avec le Mali tout entier sur toutes les questions humanitaires du système des Nations Unies. M. Koura Konaté m'assiste pour l'animation de ce Grand Dialogue. L'aventure continue dans le Mali profond. Avec vous, M. Koura. Où sommes-nous?
Famoussa, nous sommes à Sikasso. Monsieur le représentant et le représentant résident du PNUD au Mali, le correspondant de Studio Tamani à la radio Kenedoukou de Sikasso, s'interroge sur l'action des Nations Unies en général et du PNUD en particulier dans le cadre du respect des droits de l'homme au Mali.
Boubacar Cissé, radio Kenedoukou Sikasso. Monsieur le représentant du PNUD, dans ce contexte de fragilité au Mali, que font les Nations Unies et spécifiquement le PNUD pour le respect des droits de l'homme, en particulier ceux des enfants?
Monsieur Gressley.
Merci bien. En fait, je vais parler rapidement de la section de la MINUSMA qui est chargée avec le problème des droits de l'homme. On a au sein de la MINUSMA une équipe, une forte équipe en fait, qui s'occupe de ça avec des officiers qui travaillent un peu partout, surtout dans le nord, et pas seulement dans le nord du pays, qui ont fait, je crois, un bon travail. Chaque fois qu'on reçoit un report d'un incident, d'un abus de droits de l'homme, On a une équipe qui va sur le terrain pour voir exactement ce qui s'est passé, pour établir les faits. Et selon ces investigations, on poursuit ça avec les institutions ou même les groupes armés, s'il s'agit d'un groupe armé. Comment résoudre ce problème des abus, comme je disais, des droits de l'homme. Donc, je crois que ça, c'est un outil très important. C'est mené, en fait, c'est au sein de la MINUSMA, mais aussi c'est bien lié avec le haut commissaire à Genève pour les droits de l'homme. Donc, c'est des techniciens bien formés pour ça. Le PNUD aussi a un rôle joué, qui a joué ce rôle même avant les événements et la établissement de la MINUSMA, et on va continuer surtout dans la capacity building, augmentation de capacité pour ça. Aussi, on travaille étroitement entre le PNUD et la MINUSMA dans le système de justice, qui est très important. Donc, on a déjà élaboré avec le ministère de la Justice un projet pour le retour de la justice dans les régions du Nord. Ça comprend pas seulement les magistrats, mais aussi la police, la gendarmerie et les prisons. Donc, ces projets sont déjà en cours et on espère très bientôt d'ouvrir quelques bâtiments à Niefunke, par exemple. Ce même travail a déjà fait à Tombouctou. Et on va faire la même chose dans la région de Gao et Kidal. Donc, je crois que ce retour à la justice est très important pour garder les droits de l'homme dans ce pays. Et je dois dire qu'on a reçu une très bonne collaboration avec le gouvernement qui est très enthousiaste sur ça. Donc on est content avec le progrès. Il y a du travail à faire, bien sûr, mais on est content avec le progrès.
Alors, une question sur laquelle vous êtes attendu par les auditeurs aujourd'hui. Où est-ce que nous en sommes avec les enquêtes menées sur les exactions à Kidal, sachant que vous revenez de Kidal récemment?
Well, en fait, j'étais à Kidal pour d'autres raisons liées à la commission conjointe. Mais il y avait une demande pour une bureau d'enquête sur ça, et ça, c'est à l'étude actuellement. Donc, j'espère bien qu'il y aura une réponse sur ça très bientôt. C'est un peu difficile de discuter un peu plus pour l'instant, mais j'espère bien que ça va arriver.
Alors, les réfugiés, un mot peut-être sur les réfugiés?
Et peut-être les déplacés internes aussi, oui, oui. Ça, c'était un problème important pour le Mali. En 2013, quand l'intervention internationale a commencé, il y avait presque 500 000 personnes déplacées en tant que déplacés internes ou bien des réfugiés dans les pays voisins. Actuellement, on a 138 000 réfugiés déjà, toujours dans les pays voisins, et un peu moins de ça en termes de déplacés internes. C'est-à-dire, globalement, la moitié de ce qui existait avant. Donc, déjà, il y avait un retour important, surtout chez les déplacés internes, vers le nord. Je crois que ça, c'est un bon signe. Avec les réfugiés, je crois qu'ils vont attendre une paix définitive à Alger avant de vraiment rentrer dans la totalité de ce qui reste. Mm-hmm. Mais les déplacés internes sont déjà de retour. Pour le plus important, sont déjà de retour.
Je crois qu'on a une question pour vous.
Monsieur le représentant résident du PNUD au Mali, le correspondant de Tamani à Sikasso a mis un accent particulier sur le droit des enfants. Et vous avez parlé de la généralité. Quel est le sort réservé aux enfants, sachant que c'est une couche fragilisée qui va des fois jusqu'à l'esclavage?
Well, en fait, il y a plusieurs problèmes chez les enfants. Je crois qu'on peut parler d'abord de l'éducation. Le taux de scolarisation reste toujours bas. Ça a augmenté, mais on a toujours une distance à traverser. Et ça, c'est surtout vrai dans les régions du Nord. Je me souviens la première fois que j'étais dans un camp de réfugiés en Mauritanie, c'était en 2012. J'étais là avec les réfugiés et ce que j'ai constaté, c'était le jour que l'UNICEF a démarré les écoles dans les camps de réfugiés. Ce qui était étonnant était le fait que c'était le pour la plupart de ces enfants, je veux dire 90%, même plus, c'était le premier jour dans une école, dans leur vie. Donc, c'était dommage que ces enfants ont dû quitter leur pays pour aller à l'école. Même maintenant, malgré le fait, et on a fait un gros progrès ici au ministère de l'Éducation, presque 90% des enfants qui étaient dans les écoles avant le conflit sont de retour. Mais malheureusement, avant le conflit, seulement 50% de ces enfants étaient à l'école. Donc, il y a toujours une grande marge des enfants qui ne profitent pas des écoles. Donc, ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, on a parlé de ce problème de travail. Ça touche presque 50% des enfants. Donc, vraiment, on a un problème là-bas. Parce que si les enfants sont occupés de gagner leur vie, ils ne peuvent pas aller à l'école. Et ça va empêcher un bon avenir pour ces mêmes enfants. Donc, là aussi, on a un problème à poursuivre. Et finalement, je crois que c'est la question de santé. Il y avait des améliorations dans les années précédentes, mais toujours le taux de mortalité infantile et pour les enfants reste très élevé vis-à-vis d'autres pays dans le monde. Donc, c'est très important aussi d'augmenter l'accès aux services de santé pour ces mêmes enfants. Et comme on a discuté avant, c'est la question de malnutrition qui pèse sur ça. Et un aspect de la malnutrition qui est très important, c'est pas seulement que ça peut tuer des enfants, et ça arrive trop souvent, mais aussi ça peut avoir un impact sur la capacité mentale. Qui restent toute leur vie. Donc, même leur capacité de vivre une vie comme on souhaite est limitée. Donc, il faut attaquer tous ces problèmes pour que les enfants puissent vraiment exercer leurs droits en tant qu'enfants.
Alors, y a-t-il des initiatives locales de la part du gouvernement que vous étayez?
Oui, en fait, il y a des initiatives qui sont déjà en cours. J'ai parlé tout de suite de ce programme de retour à l'école et ça a été très important. Il y a aussi les programmes de malnutrition dont on a parlé. Donc, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de progrès, il y avait des progrès, mais il faut continuer de pousser dans la même ligne pour qu'on atteigne tous les enfants. Ça, c'est vraiment le défi maintenant. Il y a aussi parfois des questions de gouvernance qui jouent dans tout ça. Donc, un système pour améliorer la gouvernance peut aussi aider dans ces objectifs.
Alors, nous sommes à vous, M. Koura Konaté, pour la question suivante.
Et à présent, Famoussa, nous revenons à Bamako avec une question plus spécifique sur les droits des enfants, l'éducation de la petite fille. Quel avenir? C'est la question de Alexis Calambri, directeur de publication du journal Les Échos. Écoutons la question de M. Calambri.
Alexis Calambri, directeur de publication du quotidien Les Échos. Nous avons vu la MINUSMA s'impliquer dans beaucoup de domaines, comme les droits de l'homme, comme la réhabilitation des infrastructures. Et une des questions cruciales au Mali, c'est l'éducation des petites filles. Qu'est-ce qui est prévu d'abord et ensuite, d'où proviennent ces fonds-là? Est-ce que vous avez prévu d'intervenir pour l'éducation en général, pour l'éducation de la petite fille? Est-ce que ça va se faire au détriment d'autres activités socio-éducatives au Mali?
Monsieur Gressley.
Merci bien. Peut-être d'abord une petite clarification. Ce n'est pas vraiment la MINUSMA qui va s'occuper de cet aspect, c'est plutôt les agences onusiennes, surtout l'UNICEF et l'UNESCO qui est bien impliqué, aussi le PAM, parce que le PAM organise les cantines scolaires, qui est très important. Donc, pour ce problème, je vais parler en fait avec le PAM. Le fait qu'on ait des cantines scolaires, c'est très important pour attirer les petites filles à assister aux écoles. Donc ça, c'est une étape qui est déjà en cours et je veux continuer à encourager le PAM d'élargir ce programme. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Deuxième chose, c'est la qualité de l'éducation et l'UNICEF est bien impliqué dans ça. Et peut-être troisièmement, c'est en fait les structures, l'infrastructure. Donc, on a un certain programme pour aider dans l'infrastructure des écoles. Donc, il faut travailler, il faut continuer à travailler dans ce sens, d'étudier comment on peut attirer les filles et surtout les parents de ces mêmes filles, de les encourager d'aller à l'école. On a vu une progression importante, une évolution positive importante, mais on voit toujours qu'il y a un écart entre les garçons et les filles. C'est un écart de 15% et c'est un écart qui persiste. Donc, il y a toujours un problème dans cet aspect et on va continuer de travailler dans le sens que je viens d'indiquer.
Je crois qu'on a une question pour vous.
Oui, toujours dans le cadre des droits des enfants. Les enfants et les femmes payent le lourd tribut en période de crise. Et il y a UNIFEM qui s'occupe des questions féminines. Quelles sont les actions de UNIFEM en faveur des filles violées ou mariées de force pendant la crise?
Merci bien. En fait, ce problème qui est très, très grave touche pas seulement l'UNIFEM, mais aussi... l'UNICEF et aussi notre unité de droits de l'homme. On a aussi au sein de la MINUSMA un groupe qui s'occupe des protections des femmes et des enfants. Donc, toutes ces unités, ces groupes sont bien impliqués d'abord de faire des investigations si c'est nécessaire. Deuxièmement, de donner un appui aux filles affectées par ça. Certaines ont besoin d'une assistance psychologique, par exemple. Donc, ces programmes sont déjà en cours. Donc, il y a plusieurs aspects qu'on doit toucher dans ce sens. Heureusement, malgré la gravité du problème qu'on a vu ici au Mali, ça n'a pas atteint le même niveau qu'on a vu dans d'autres pays. Et je crois que ça, c'est très important parce qu'on attend une réconciliation nationale. Et le fait que ça n'a pas atteint le même niveau qu'on a vu dans certains pays comme le Yémen, ou l'Irak ou l'Afghanistan, je crois, donne toujours une opportunité pour avoir une réconciliation nationale qui est très importante pour avoir une paix durable. Mais il faut agir maintenant. Pour que ça n'arrive pas au même niveau qu'on a vu dans d'autres pays. Donc, on va continuer de faire notre appui à ces programmes, mais à la fin, c'est le retour de la justice, c'est la réconciliation nationale, c'est un accord définitif de paix qui va faire la différence, qui va éviter ce même problème pour l'avenir. On doit prévenir en même temps qu'on fait le traitement ou bien les investigations déjà en cours.
Alors déjà, est-ce qu'il y a des programmes d'urgence dans ce domaine?
En fait, oui. Dans les régions du Nord, on a des programmes orientés vers ça. Par l'UNICEF, par ONU-FEM, ils sont des programmes liés à ces mêmes populations affectées par ça.
Est-ce que c'est de façon générale vis-à-vis des femmes ou bien sur les petites filles?
Les deux, en fait.
Les deux. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie de ce débat.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Le grand dialogue spécial d'aujourd'hui, nous sommes à sa troisième partie qui reçoit David Gressly, coordonnateur de l'action humanitaire des Nations Unies au Mali. Et Monsieur Gressly parle par le canal du studio Tamani avec la population malienne sur les trois axes que nous avons cités au début de cette émission, à savoir la sécurité alimentaire, les actions en faveur de l'enfance et les mobilisations de fonds en faveur des programmes humanitaires au Mali. Je rappelle que le contexte de cette émission, les populations échangent avec l'invité sur les sujets du quotidien et aujourd'hui il s'agit de faire le point des actions humanitaires menées par les Nations Unies au Mali pour cette occasion. Nous recevons donc, je vous l'ai dit, David Gressly. Nous arrivons presque à la fin de cette émission pour cette avant-dernière question. Nous restons à Bamako, M. Koulakounaté.
Oui, Famsa. Monsieur Gressly, la question est de notre confrère du journal le 22 septembre. Elle est en rapport avec l'impact de la crise financière internationale sur l'appui au développement. À présent, la question de Shahana Takiyou.
Shahana Takiyou, directeur du journal 22 septembre. Monsieur Gressly, vous êtes à la fois le représentant du PNUD au Mali et le numéro 2 de l'AMUNISMA. Il nous est revenu que, au niveau de l'AMUNISMA, les décaissements sont faibles. Est-ce qu'on peut savoir les raisons profondes de ce retard dans le décaissement concernant le Mali, il faut le dire, nous le voyons en termes de décaissement en faveur du Mali.
Alors, juste avec une précision que Moussoukra Konaté doit apporter à cette question.
Et ici, il s'agit plutôt du financement et non du décaissement. Okay. Le financement qui a de plus en plus du mal à être mobilisé.
Merci pour cette question. En fait, depuis la crise financière de 2008, ça est devenu beaucoup plus difficile de mobiliser les ressources nécessaires. C'est compliqué cette année par les crises importantes à travers le monde, en fait. On a le problème au Sud-Soudan, en Syrie, on a aussi le problème en Centrafrique, qui complique la situation avec leurs besoins, qui sont aussi très importants. Malgré tout ça, nous continuons à rechercher le financement nécessaire. Jusqu'à maintenant, on a mobilisé 34% des besoins pour le pays. J'espère bien que ça va dépasser 50% avant la fin de cette année. Mais 50% ne suffit pas. Et comme j'ai dit, c'est vraiment lié à ce problème que les bailleurs n'ont plus d'argent à ajouter. Ils ont un budget qui est assez fixe pour le monde entier et il faut le diviser. Donc, si on augmente ici, il faut diminuer dans une autre partie du monde. Et heureusement, on n'a pas encore réduit le montant pour le Mali. On espérait d'augmenter et c'est toujours possible cette année qu'on va avoir un peu plus de financement que l'année passée. Mais c'est une bataille. Chaque année, c'est une bataille. Et on vient de terminer notre revue à mi-parcours pour cette année. Avec ça, on va revoir nos partenaires, les bailleurs concernés qui peuvent encore augmenter les financements nécessaires, surtout pour la sécurité alimentaire, pour la nutrition, pour l'éducation, santé et eau. Ce sont dans ces secteurs où on doit vraiment rechercher un financement. Mais je dois noter que cette année, le gouvernement malien a bien investi son financement dans la sécurité alimentaire. Ils ont acheté plus de 30 000 tonnes de vivres. Ils sont en train maintenant de distribuer cette assistance. Donc, ça va
Alors,
beaucoup
est-ce
faciliter.
Est-ce que c'est avec votre aide?
Non. Ça, c'est à part de notre financement. C'est pourquoi ça, c'est très important. Donc, ça peut toucher jusqu'à 1 million de personnes. Donc, ça va faciliter de combler le gap qu'on a pour l'assistance alimentaire cette année. Et je crois qu'on doit bien noter cet effort par le gouvernement.
Moussoukra Konaté.
Et si ce problème de financement continue, allez-vous revoir vos objectifs en termes de développement?
Well, ça, c'était sur le côté humanitaire. Sur le côté de développement, on va continuer avec nos programmes. En fait, l'année passée, les Nations Unies, les agences, ont décaissé presque 350 millions de dollars. La moitié, c'était pour l'action humanitaire, l'autre moitié pour le développement. Donc, on continue de recevoir un financement pour le développement et on espère que ça va continuer. Et j'espère bien, avec un accord de paix définitif, ça va encourager les bailleurs encore de financer le Mali. Et c'est très important. C'est un débat qu'on doit avoir avec nos collègues, les bailleurs. Une fois qu'il y a un accord de paix, il faut assurer le succès de cet accord. Et on doit financer tout ce qu'il faut pour avoir une bonne mise en œuvre de cet accord. Un échec avec ça va avoir Ça va créer un échec politique à la fin. Donc, en 2015, c'est très important que, qu'on reçoive le financement nécessaire, soit à travers les Nations Unies ou par d'autres chemins, le financement nécessaire pour donner l'appui nécessaire pour le succès de cet accord.
Alors, les guerres nouvelles sont un peu partout sur le continent et ailleurs, et même en dehors du continent. La guerre à Gaza aujourd'hui a fait plus de 1000 morts. Est-ce que ces conflits font que le Mali devient un conflit oublié par la communauté internationale?
C'est pas encore oublié. C'est pas juste de dire ça. Mais c'est pas au premier plan non plus. Donc il faut bien travailler pour faire rappel aux bailleurs que le Mali reste très important, qu'il y avait des progrès importants, mais on peut perdre ce progrès. Donc il faut continuer à investir dans le Mali pour l'avenir de Mali, mais aussi pour la région aussi. Et je crois qu'on peut convaincre les bailleurs concernés. Je suis optimiste aussi.
D'accord. Alors, une dernière question avant de conclure, Moussoukoura Konaté.
Monsieur le représentant résident du PNUD au Mali, le directeur de la radio Sania de Ségou s'interroge sur les priorités du PNUD au Mali. La radio Sania est l'une de nos trois radios partenaires dans la région de Ségou. Voici la question de Monsieur Bandjoukou Dante.
Bonjour, Bandjoukou Dante, radio Sania, Ségou, Ségou. Monsieur Gressly, dans un pays où tout a tendance à être prioritaire, quelles sont, selon le PNUD, les priorités pour le Mali?
Je vais parler tout d'abord à propos du PNUD même, mais je vais parler aussi du système des Nations Unies. Pour le PNUD, c'est surtout l'aspect de gouvernance, et j'ai parlé tout de suite de la justice surtout, l'accès aux justices aussi, on n'a pas encore parlé, mais la cohésion sociale est très importante. Encore, on a l'augmentation de capacité des institutions. On veut travailler dans tous ces domaines pour voir comment on peut augmenter la capacité de faire face aux défis dans le pays. Mais plus globalement, on veut aussi, avec toutes les agences, travailler sur plusieurs axes, surtout dans la sécurité alimentaire, sur le côté de développement, la santé, nutrition, dans l'eau, dans la protection aussi, et les droits de l'homme. Donc on a plusieurs programmes par les agences tunisiennes dans tous ces domaines, et on va continuer à investir sur ça. C'est très important qu'on touche tous ces secteurs si on veut vraiment avoir un impact important et positif dans le pays. Je suis, comme je disais, très optimiste ou assez optimiste qu'on va continuer de recevoir le financement nécessaire, mais ça va demander un effort de notre part de convaincre les bailleurs de l'importance de continuer avec cette assistance.
Alors, le secteur de la justice tient beaucoup à cœur au gouvernement du Mali. Quelles sont vos relations avec le volet justice de la MINUSMA? Quelles sont ses relations avec la justice malienne et la justice internationale?
Avec le gouvernement malien, je crois qu'on a un très bon rapport. En fait, on a créé un projet inter-agence entre les agences onusiennes et la MINUSMA avec le gouvernement malien. C'est un projet de 17 millions de dollars. On a déjà mobilisé la moitié de ça. Donc, on a déjà commencé de travailler sur le côté de l'infrastructure pour aider le retour du personnel, surtout dans la région du Nord. Mais aussi, on a une composante sur la formation technique de ces mêmes personnes. Et ça, c'est déjà en cours. Et on va voir dans quelle mesure on peut aussi équiper ces mêmes institutions. Comme j'ai dit, c'est l'aspect de magistrats, la police, la gendarmerie et les prisons, qui tous sont liés dans la chaîne pénale, parce qu'il faut avoir tout ce système. Tout ce système doit fonctionner pour qu'on puisse avoir un vrai accès à la justice.
Alors, la MINUSMA est beaucoup impliquée dans les enquêtes sur les exactions au Nord. Est-ce que vous confiez le résultat de vos enquêtes à la justice malienne ou bien à la justice internationale?
On travaille avec le gouvernement malien ici. Donc, s'il y a quelque chose à discuter, c'est avec le gouvernement malien. Oui.
Alors, M. Koura Konaté a une question pour vous.
Où en est-on des enquêtes sur les événements du mai dernier à Kidal?
Comment?
Les derniers événements survenus après la visite du Premier ministre.
Ça, c'est quelque chose qui est toujours en cours. Je ne suis pas moi-même personnellement impliqué dans ça. Donc, je ne peux pas vraiment donner des détails. Mais nous sommes en train de discuter comment on peut avancer ça avec le gouvernement.
Alors, dans quelques jours, les pourparlers vont commencer en Algérie. Y a-t-il est-ce que vous attendez un accord, quelque chose de précis de ces pourparlers?
En fait, je suis optimiste, même très optimiste, qu'on va avoir à la fin un accord de paix. Ce qui est important pendant ces négociations, ces pourparlers, est d'avoir un processus inclusif. Qui touche vraiment au fond les problèmes dans les régions du Nord. Ce n'est pas seulement les groupes armés qui ont une revendication. C'est toutes les populations, en fait, a quelque chose à dire, qui ont leurs propres attentes. Donc, c'est très important que ce soit un processus inclusif qui comprend toutes les problématiques du Nord si on veut vraiment une paix crédible, une paix durable.
Alors, comme je vous l'ai dit, il est l'heure pour vous de nous donner, de nous ramasser un tout petit peu tout ce qui a été dit aujourd'hui en termes de résumé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à la fin de ce débat?
Well, en fait, on veut sortir des crises ici au Mali. Il y a la crise humanitaire et pour s'en sortir, il faut deux choses. D'abord, il faut attaquer le problème des conflits dans le Nord et ça va demander un accord de paix définitif, crédible, durable. Deuxièmement, il faut attaquer les problèmes structurels qui vont rester même après un accord de paix. Donc, il faut attaquer ces problèmes structurels et ça va demander une amélioration dans le système de gouvernance pour avoir un succès dans tout ça. Et finalement, il faut l'appui international en termes de financement, mais aussi engagement politique pour continuer à assurer un progrès important pour le Mali qui va avoir un impact positif sur la région et pas seulement pour le Mali.
Alors, faire la paix, ça demande des concessions. Qu'est-ce que vous demandez aux deux parties aujourd'hui, au gouvernement malien et au groupe rebelle?
C'est pas pour moi de demander des concessions. C'est pour moi de demander qu'on discute, qu'on écoute, qu'on trouve des solutions consensuelles qui va vraiment permettre une paix définitive durable.
Alors, un mot peut-être pour les populations qui souffrent de cette crise.
C'est l'année d'agir. Il faut agir en 2014. Et je crois que la communauté internationale est bien engagée cette fois-ci d'avancer vers la paix à travers le Mali. Et on veut soutenir une paix inclusive qui va vraiment avoir un impact positif à la fin avec la mise en œuvre de cet accord de paix.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, pour accompagner les efforts de paix, il faut le soutien de la communauté internationale, des soutiens qui peinent à venir. Quel est votre plaidoyer auprès de la communauté internationale aujourd'hui?
De rester engagé en tant que financement, de rester engagé en tant que soutien politique, mais aussi de rester engagé en tant que témoin du processus, de ce qui se passe sur le terrain. C'est avec du personnel sur le terrain qui voit ce qui se passe qu'on peut prévenir beaucoup de choses. Et si on a cet engagement pour une période de plusieurs années, je crois qu'on peut voir le Mali s'en sortir finalement de cette crise et ces crises répétitives.
Alors, qu'est-ce que vous pensez des communautés qui vivent au Mali, comme dernier point?
Ah, c'est très agréable ici, je dois dire. Ma famille est avec moi, ils sont très contents ici. On veut voyager un peu partout parce que c'est un pays magnifique. On est bien ici.
Merci beaucoup. Vaincre la pauvreté, ce n'est pas un geste de charité, c'est un acte de justice. Et c'est sur cette phrase de Nelson Mandela que nous terminons cette émission qui portait sur le travail des agences humanitaires des Nations Unies au Mali. C'était notre thème d'aujourd'hui. Un grand merci à vous, M. Gressley. Merci d'être venu.
Merci bien.
Je rappelle que vous portez plusieurs casquettes. Représentant spécial adjoint du secrétaire général pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, coordonnateur résident
agent du système des Nations Unies au Mali, coordonnateur de l'action humanitaire et représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Merci Moussoukoura pour cette agréable compagnie.
Merci Famoussa.
Merci chers auditeurs. Retrouvez cette émission sur notre page Facebook et notre site web www.studiotamani.org. Les trois points de ce débat ont été la sécurité alimentaire, les actions en faveur de l'enfance, la mobilisation de fonds en faveur des programmes humanitaires au Mali. Je suis Famoussa Sidibé et j'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission réalisée par Ousmane Diadé Touré. La mise en onde était assurée par Petting Diarra. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Maoundi.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.